Alors, merci de me donner la parole. Je suis très honorée d'être là. Je suis très impressionnée aussi. Je dois dire qu'en fait, voilà, je suis une ancienne enseignante de rythmique. Enfin, ancienne, ça fait plus de 30 ans que j'enseigne dans les classes de la région lausannoise. Aux petites... Comment ça s'appelle ? Moyenne et grande section chez nous. Nous, on n'a pas la petite section à l'école vaudoise, à l'école suisse. Voilà, donc j'ai des élèves de 4 à 6 ans, et ça depuis plus de 30 ans, effectivement, sans interruption, quasiment. Et par contre, je suis une très jeune académicienne, parce que ça ne fait pas très longtemps que je suis dans ce milieu. Donc, tout à l'heure, je me suis rendu compte, avec ce que vous disiez des concepts de Stern notamment, que pour moi, c'est une découverte géniale, j'adore. Je fais un montage de ce que j'ai toujours senti et que maintenant j'arrive à comprendre. Et au fond, je vous invite à voir cette présentation vraiment plutôt comme ça, comme le plaisir de se dire « Waouh, ouais, mais ça, ça marche avec ça et ça et ça. » Et c'est des pistes d'explication de ce que j'ai toujours senti. Et évidemment, en les connaissant, ça va encore mieux. Donc ça, c'est juste pour situer. Au moment où je suis entrée vraiment un petit peu plus officiellement dans l'académie, c'est au moment où j'ai présenté un mémoire sur le temps, sur les aspects de repérage dans le temps. Donc vraiment, ça, c'est mon entrée de la musique, d'essayer de comprendre ce qui se passe dans ces relations pédagogiques autour de la musique par Dalcroze, par la pédagogie Dalcroze. Et puis, à la HEP Vaud, eh ben, j'enseigne, je suis dans la formation des enseignants, mais paradoxalement, je ne suis pas dans l'équipe de musique, même si mes collègues très charmants sont ici. Mais parce que, je vous dis juste un tout petit peu, hein, institutionnellement, ce n'est pas intéressant de le savoir. Nous, les rythmiciens, dans le canton de Vaud, on est situés institutionnellement avec les anciennes de l'éducation physique. Voilà. Donc on m'a mis avec l'équipe d'éducation physique en me disant, voilà, on vous engage à la HEP Vaud. Vous avez 20%. En fait, on ne sait pas très bien quel cours vous donner. Mais vous êtes dans l'éducation physique. Voilà. Alors ça, c'était un petit peu un problème, parce que mes collègues d'éducation physique étaient charmants, mais ils n'avaient pas spécialement envie de me donner leurs heures. Voilà. Donc il a fallu un peu faire sa place. Ce n'est pas toujours confortable pour personne. Ça a bien marché par la formation continue, mais voilà. Et au fond, je me suis assez vite sentie limitée dans cette équipe d'éducation physique, parce que c'était une approche très didactique. Petite boîte, remplacer la petite boîte de percussion par des autres choses au niveau didactique de l'éducation physique, notamment des choses qui ne se comprenaient pas pareil sur le schéma corporel, par exemple, hein, parmi d'autres hiatus. Et au moment où on m'a dit vous pouvez changer d'équipe, parce qu'il y a eu des changements institutionnels assez nombreux dans ce début de HEP Vaud, je me suis dit, je ne vais pas faire l'erreur d'aller dans une autre didactique. Et désolé hein, pour les collègues de musique qui n'étaient d'ailleurs pas encore là au moment où ça s'est passé. Et j'ai décidé de me relier à une équipe transversale qui travaillait vraiment sur l'enseignement-apprentissage, enseignement-apprentissage et évaluation. Du coup, ça m'a fait entrer dans des perspectives vygotskiennes. Voilà. Donc, c'était aussi intéressant pour moi, tout à coup, d'essayer d'être dans cet étage supérieur, un peu méta, comme ça. Pour mieux comprendre ce qui se passait, c'est voilà, ce que vous allez voir est le résultat de tout ça. Voilà, c'est un plan un peu habituel. Ça, c'est la version française de ce que j'ai présenté au congrès de recherche dalcrozienne à Vienne cet été, enfin l'été passé, pour les 150 ans de la naissance de Dalcroze. Ah oui, ce que je voulais encore dire... Donc voilà, il y aura de la discussion volontiers, hein, je me réjouis de vous entendre, mais c'est un peu cette présentation de ce montage des concepts. Alors, ce que je voudrais vous dire, c'est puisque vous connaissez certainement tout ça, c'est de me faire des retours sur cette construction logique, il y a peut-être des choses qui ne marchent pas, mais aussi, moi j'aurais très 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 plaisir à vous inviter cordialement à venir voir, parce que j'ai pas le droit de montrer des images. Et en plus, c'est pire que ça. Mes images, j'ai voulu quand même les revoir avant cette présentation. Je me suis rendu compte que, voilà, je les ai plus. Elles se sont... j'ai des choses que je n'arrive pas à lire technologiquement. Peut-être que je pourrais trouver un truc, mais pour le moment, j'ai un machin qui est inerte, quoi. C'est un peu... Voilà, mais ces enfants-là, je les vois toujours. Enfin, peut-être pas ceux-là, parce que... Non, il y en a que je vois encore. Donc, au fond, je crois qu'il n'est pas interdit. S'il est interdit de faire des images dans le canton de Vaud pour en faire de la recherche, alors bon, après, on se débrouille. Absolument. Mais vous êtes aussi vraiment les bienvenus pour venir critiquer, discuter en direct les lundis et jeudis matin. À l'heure. Enfin, après le matin. Je sais, c'est facile à dire. Alors, allons-y. Donc, ce que je vais vous présenter, c'est partie d'il y a quelques années dans les classes de rythmique, donc de ces premiers degrés, il y a eu un événement significatif qui s'est déroulé autour d'une séquence basée sur la pièce musicale de Tchaïkovski du ballet Casse-Noisette. Je vous ai envoyé, je crois, un document. Voilà. Une danse russe qu'on réécoutera dans un petit moment parce que on va faire le travail ensemble. Et puis, je demandais à mes élèves de bouger avec la musique. En gros, je pense que c'est comme ça que je l'ai dit. Je reviens à une dizaine d'années en arrière, en tout cas. C'est une formulation dans ma pratique de dalcrozienne qui est un petit peu commune, comme ça. Donc, bougez comme vous voulez, mais essayez de placer des sauts au moment où vous le trouvez approprié. Mon but était de les amener à mémoriser cette brève suite musicale dans laquelle ils pourraient faire correspondre à certains moments d'accentuation des sauts à partir d'un vocabulaire corporel très simple. Et puis, après quelques sauts spontanés, parce que je leur avais dit, essayez de faire des sauts, alors ils essayaient de faire des sauts, c'était plus suscité par ma proposition verbale que vraiment par ce qu'ils entendaient, ils se sont laissés emporter par la musique et ils ont couru, 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 et après ils étaient en nage, mais hyper contents. Incapables de s'arrêter. Bon, alors, la semaine suivante, enfin, ça c'était il y a 10 ans, 10-15 ans. Après, j'ai repris l'expérience, je ne sais pas, 5 ans plus tard, en me disant, j'aimerais mieux comprendre ce qui se passe. Je me suis dit que, et ça s'est repassé la même chose. Donc je me suis dit, on va changer, j'ai affiné mon dispositif, et j'ai proposé un mouvement non locomoteur, où les élèves n'étaient pas pris par la course, et du coup, ils arrivaient à un meilleur résultat, parce qu'ils étaient centrés sur le geste, mais uniquement des bras. Et c'était toujours la même consigne, insérer des moments de saut dans cette pièce musicale. Et alors, en restant assis, ils bougeaient les bras pour figurer les mouvements, et ça a commencé à donner de meilleurs résultats, ils ont porté une meilleure attention à la musique, et ils ont très rapidement amélioré leur production en lien avec la consigne. Et progressivement, il y a eu deux caractères qui sont devenus assez clairs, qui se sont stabilisés en deux mouvements contrastés, et ça, je pense que c'était la deuxième occurrence où je l'ai fait. Là, je pense que ce qu'on voit là est la troisième occurrence, au moins, peut-être quatrième, je ne sais pas. Je ne l'ai pas encore refait, ça date de l'année passée, de à peu près la même époque. Moi, et donc, finalement, c'est devenu sauter. Il y a des moments de sauter et il y a des moments de course. Ensuite, on a pu reprendre les mouvements globaux. À partir du moment où les enfants avaient pu porter leur attention en restant assis, on a pu repartir dans des mouvements globaux. Et là, du coup, ils percevaient mieux comment identifier ces moments dans le flux musical. On va peut-être le faire déjà, pour que je vous voie, pour que je vous montre comment on faisait. Donc, quand on a repris les mouvements globaux, ce qu'on ne voit pas encore ici, mais vous en verrez quelques images, notamment, on l'a fait avec des rubans de gymnastique, hein, vous voyez ça. C'est-à-dire qu'il y a vraiment ce mouvement de saut qui peut être très, très énergique, et puis des mouvements de course qu'on faisait comme ça. Ça limitait quand même l'aspect déplacement, et donc ça limitait un tout petit peu ce qui est difficile à inhiber chez ces enfants, mais on le verra tout à l'heure. On essaie de le faire ensemble si ça vous va, vous faites les élèves, enfin, vous faites comme vous voulez, mais je vous propose de le faire comme les élèves ont pu le faire. Peut-être qu'il y a un saut, et puis là il y a la course. Donc, moi je vous propose de le faire vraiment. Il y a vraiment quelque chose qui court, un peu horizontal aussi comme ça, et en vertical avec un accent. L'idée c'est de l'éprouver, là c'est vraiment une expérience de schéma corporel que je vous propose à vous personne. Et puis il y a un petit commentaire qui continue, bon ça va avec la course. On peut tout à fait le faire passer dans la course, même si c'est pas d'accord, on n'est pas tout à fait sur le même motif. Il y a de nouveau des sauts. Ils sont toujours épuisés mais contents à la fin. Et moi, ça me fait toujours un effet incroyable. Quand je le fais, je trouve qu'il y a une puissance qui se développe là. Je ne sais pas si vous l'avez éprouvé pareil. Mais voilà. Alors, d'abord, évidemment, première réflexion que j'ai eue, c'est les difficultés d'inhibition motrice de ces élèves qui sont très jeunes. Régulation tonique à cet âge-là, c'est un problème. Donc, j'ai essayé d'abord de résoudre ce problème-là, qui est aussi un problème du temps, hein, parce que c'est à quel moment on saute et à quel moment on court. Donc il y a quand même aussi cette idée d'organisation du temps dans la musique. Et puis progressivement, j'ai tiré le fil du temps, et puis il y a tous ces concepts qui me sont arrivés dessus, progressivement, parce qu'il faut le temps de les lire quand même. Mais voilà, donc je vous propose de cheminer avec moi dans ces concepts juste maintenant. Et ben, je suis partie sur la difficulté d'inhibition motrice des jeunes élèves. Pour la définition d'inhibition motrice, je vais peut-être m'appuyer sur Berthoz. Le sens du mouvement, c'est ce que je trouvais intéressant. Ben, y a beaucoup d'autres choses, hein, mais voilà. Et on sait que ce problème d'inhibition motrice, ça a été longtemps un très gros problème à l'école, au fond. Hein. À l'école, ben, on cherchait des enfants silencieux, immobiles, selon la formule de Kant, qui disait qu'il fallait que les enfants apprennent tout d'abord à rester tranquillement assis et à observer ponctuellement ce qu'on leur ordonne. Voilà. Alors c'est maintenant que cette difficulté d'autorégulation tonique et motrice des jeunes enfants, c'est un phénomène lié à l'immaturité neuromotrice de leur âge. Donc la manière dont l'enseignement peut accueillir ces mouvements spontanés, c'est vraiment hyper important, parce que ça va définir la manière dont on va envisager l'école. Là, j'ai fait exprès de mettre un petit dessin de ce stage-là aussi. On ne s'énerve pas tellement que les enfants dessinent, en guillemets, mal, ou aient des mouvements saccadés quand ils dessinent, mais on s'énerve beaucoup qu'ils courent et qu'ils crient. Voilà, il y a un petit problème. Donc, dans une précédente recherche que j'ai fait avec François Villaine, encore François, tiens, on a observé comment les mouvements et les expressions spontanées des élèves sont pris en compte dans les situations didactiques diverses, hein, et comment l'enseignant gère les distracteurs sensoriels. Hein. C'est de nouveau l'idée qu'il y a ces informations sensorielles qui arrivent tout le temps, et comment l'enseignant gère la définition du terrain de jeu. Ça, c'est Sansevi qui parle de ça. Il parle du jeu comme d'une rencontre collaborative. Et même si on est là, l'intérieur de la flèche est le jeu. D'accord ? Et ça, c'est les frontières de la flèche. Le jeu va se passer à l'intérieur de la flèche, le jeu didactique. Et pour que l'enfant pour que la rencontre didactique vraiment puisse se passer, ces trois pôles que sont le savoir, l'enseignant et l'élève, dans l'autre ordre, hein, mais vous ne trouvez pas les pôles ici. C'est tout le monde est dans cette flèche-là si on veut réussir une rencontre didactique. Okay, le savoir, il est défini là. Ça, c'est le but du jeu. L'objet d'apprentissage, il est en haut. Et là, ce serait se repérer dans le temps, mon objet d'apprentissage. On pourrait d'ailleurs discuter de ce que François a montré tout à l'heure, c'est-à-dire quel était l'objet d'apprentissage réel. Est-ce que c'était vraiment s'exprimer tout seul? Ou est-ce que c'était travailler les techniques d'expression? Ça change beaucoup de choses à ce qui se passe à l'intérieur. Hein. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que s'il n'y a pas l'attention qui nous fait entrer dans le terrain de jeu, ça ne marche pas. Ensuite, il faut évidemment... Enfin, ça, c'est tiré de Paoletti, notamment, hein, qui est sur le champ des apprentissages psychomoteurs. Il faut prendre avec nous les sensations pour que les sensations, elles amènent au bon endroit... On puisse commencer à percevoir un peu clairement ce qu'on veut, et puis commencer dans des assimilation, mémorisation, c'est les termes de Paoletti, moi je préfère dire intériorisation, disons, hein, pour amener à l'objet d'apprentissage. Je vous la fais très vite, mais vous trouvez ça dans notre article. Donc, pour que ce soit clair, ce qu'on va apprendre, quel est l'objet de savoir et comment on va avancer dedans, pour qu'on ait des chances d'y arriver, parce que c'est quand même compliqué, l'enseignant, il doit faire face à tous ces distracteurs sensoriels, et donc il va réguler pour toujours remettre à l'intérieur de la flèche en disant non, là ça c'est en dehors, on ressort. On a vu Véronique, hein, ton enseignante, qui faisait ça de façon assez experte, effectivement. Et puis pour l'enseignant, ce guidage, il a deux formes. C'est soit l'enseignant qui guide verbalement ou non verbalement aussi, hein, c'est qui prend en charge et qui amène l'élève à faire les choses, qui le lui explicite relativement clairement, soit c'est le milieu, il demande au milieu de le faire. C'est-à-dire qu'il y a des tables déjà hein, où les enfants sont séparés les uns avec les autres, on va pas trop s'exciter, où on va séparer, ben, là je travaillais avec un entraîneur de natation, où il prenait l'exemple des lignes de nage par exemple, hein, qui permettent de clairement inhiber la vue à l'endroit où c'est pas nécessaire, donc on va se concentrer sur ça, sur sa ligne de nage, etc. Voilà, donc ici, dans la pédagogie dalcrozienne, on va clairement pas utiliser trop le milieu et on va clairement demander à l'enfant d'apprendre à s'autoréguler. C'est vraiment ça, c'est vraiment que l'enfant progressivement doit apprendre à inhiber des choses et à inciter aussi, hein, parce que c'est toujours frein, accélérateur. Et donc, Émile Jacques Dalcroze, il fait déjà ce pari-là. Il parle des rythmes naturels du corps, dès 1930 quand même. Et il inclut les différents modes sensoriels comme des éléments essentiels à prendre en compte dans l'éducation musicale. L'inhibition et l'incitation des actions motrices sont là des objets d'apprentissage à part entière. On travaille sur les tensions et détentes, les freins et les accélérations. Suquet, dans l'histoire du corps de Courtine, relève que Dalcroze est un des premiers à avoir parlé du sens musculaire. Hein. C'est vraiment un des inventeurs du sens kinesthésique dans la pédagogie. Au contraire, donc, des institutions disciplinaires qu'a montré Foucault, où c'est l'école-prison, l'école qui sépare, on devrait rendre le corps docile, mais dans une idée non pas de spontanéité, mais d'obéissance absolue. Alors que chez Dalcroze, il oppose les rythmes corporels instinctifs et les rythmes créés par la sensibilité ou par la volonté raisonnée. Ces trois aspects devrait établir entre eux des rapports de manière fluide, légère, qu'on puisse être libre au fond, hein, c'est ça l'idée. Donc on est bien dans des idées de tension et de détente, de vitesse, de lenteur, etc. Donc moi je vais reprendre cette idée de mouvement spontané ici, mais pour le moment je laisse ça de côté, je vous laisse lire aussi. Je continue, je reviens à ces concepts qui touchent la toute petite enfance et qui nous permettent maintenant de mieux comprendre ces particularités propres à cet âge. C'est nouveau, hein, quand même, au XXIe siècle, on commence à avoir en main les outils de connaissance qui nous permettent de mieux comprendre. Donc Stern, évidemment, en 85, qui nous rappelle que le nourrisson, dans les premiers moments de sa vie, il est dans une dépendance totale, c'est clair, mais en même temps, il a deux aptitudes fondamentales qui vont lui permettre de survivre. L'une pour la communication, l'autre pour la perception. Là, d'abord, il doit être très efficace pour sa communication, dont l'accordage affectif. En tant que pédopsychiatre, il a pu vraiment toucher ça de très près. C'est cette construction des liens intersubjectifs, comme tu l'as tout à fait bien dit, François, c'est parfait d'être juste après toi. Humberti dit que l'accordage affectif est un processus essentiel de la construction du lien interpersonnel intersubjectif. Mais là, je suis sûre que je vous apprends rien. Humberti aussi propose l'image de mise en phase des rythmes fondamentaux, hein, de cette idée d'accordage entre deux personnes dans ces situations d'interaction. Et puis, au-delà de cette fonction de communion, parce que là, on est dans la communion, il y a aussi l'idée de pouvoir amener quand même aussi guider vers exciter, calmer, commencer un jeu, répéter. Donc là, il y a vraiment des aspects temporels, bien sûr. Et puis Stern explique que le temps donc est impliqué sur les niveaux d'intensité, le rythme, qui pourraient être des caractères perceptifs que le nourrisson est le plus capable de représenter et le plus précocement. Donc au fond, moi, ça m'a juste vraiment scotché quand je me suis rendu compte de ça. Peut-être que cette absence, parce que ce que j'ai vu dans mon mémoire, c'est une absence quasi totale du temps et des repérages de temps dans les plans d'études et dans le discours des enseignants et dans le discours d'à peu près tout le monde, sauf les musiciens, qui, eux, travaillent avec tout le temps. Et je me suis vraiment longtemps posé la question, et au fond, je me demande si ce n'est pas une forme d'amnésie, au fond. Parce qu'on connaît ça depuis tellement longtemps, et c'est tellement imbriqué dans notre mode de communication, très intime aussi, hein, qui revient à très très loin. Bon. On a parlé de caractère perceptif, donc il y a ce deuxième outillage particulier à cette période de la première enfance. Alors, on en a parlé hier, hein, la fameuse perception amodale. Moi, je me suis appuyée sur cette citation que je vous laisse lire. Puis là, c'est le génie des rencontres, parce qu'effectivement, on a quelqu'un qui a travaillé avec, redis-moi le nom du...
C'est Tom Bauer.
Tom Bauer. Dont tu as...
Qui encadrait la thèse de Kelly Kay, qui avait publié justement le transfert cross-modal entre la modalité tactile et visuelle.
C'est extraordinaire. C'est bien pour toi. Donc, Stern a effectué des expériences là-dessus, hein, sur ses aptitudes transmodales, et il suggère que certaines propriétés des personnes et des choses, telles que la forme, le niveau d'intensité, le mouvement, le nombre et le rythme, sont appréhendées directement comme des attributs perceptifs globaux à modaux. C'est vrai qu'on n'avait pas parlé encore des neurones miroirs et ces aspects d'immédiateté de la perception. Je pense qu'on a encore pas mal à construire là autour. Hein. Mais, voilà, je retiens déjà ça. Et donc, il appelle ces ressentis les affects de vitalité que Humberti décrit comme des profils d'activation dans le temps, des suites de tensions et détentes plus ou moins fortes, des suites de variations d'intensité de la sensation. Donc, évidemment, en tant que dalcrozienne, tension, détente, ça parle directement à notre outil de travail. Hein. Donc, je ne pouvais que être contente de trouver ça. Et puis, alors, Stern, il précise qu'en voyant un geste du bras, ben, comme ce qu'on a fait tout à l'heure, hein, par exemple, on peut regrouper les propriétés perceptives d'accélération, de vitesse, d'amplitude expressive, mais on ne ressentira pas le geste en fonction des propriétés perceptives de rythme, d'intensité, de forme, on le ressent directement comme énergique. Donc il y a vraiment, on ne passe pas par la tête pour faire ça, c'est, on le ressent directement en termes d'affectivité. Et puis alors, comment est-ce qu'on passe de l'intensité, du rythme, de la forme au caractère énergique, demande Stern, et lui il dit cette question elle nous ramène directement à la compréhension de l'art, notamment de l'art musical ou de l'art sans mots. Hein. Je me fais gronder quand je dis que l'art est forcément sans mots, et il y a des gens qui disent non, l'art théâtral, bien sûr. Mais voilà, tout ce qui est de l'art du temps. Etc. Donc, oui, ça doit être un mode de communication très direct qu'utilise l'art, cette communication d'expérience immédiate. Et Humberti postule que l'art utilise une forme d'accordage affectif. Il propose le concept de vecteur dynamique comme la forme musicale de l'affect de vitalité. Là, vous allez peut-être me dire que je me trompe, mais c'est comme ça que je l'ai compris. Hein. Je réjouis de la discussion après. C'est comme ça que je le construis. Voilà la référence de Humberti pour les vecteurs dynamiques. D'ailleurs, merci Laurent, parce que c'est dans le bouquin, tu as dirigé la publication. Et donc, j'arrive à une signification temporelle qui, là, me renvoie directement à un chercheur, Suchot, qui a montré en 2008 que la capacité à se repérer dans le temps était une des compétences que l'on retrouve de façon significative chez tous les élèves qui réussissent leurs 6 premières années de scolarité. Il a fait une recherche longitudinale pour montrer que ce repérage dans le temps est l'une des deux, l'autre est la compétence numérique. Au fond, ça a aussi un rapport avec le temps, hein, la compétence numérique. Donc ces repères temporels, comment est-ce qu'on va faire pour amener les élèves à construire ces premiers repères dans le temps? Ben, moi, j'ai essayé de le faire par la musique et j'ai essayé de les amener à identifier ces éléments basiques, facilement reconnaissables, qu'on a là, sauter, courir, qui peuvent être pris comme des signes, hein, au sens de Vygotsky. Dans cette perspective, les signes deviennent de nouveaux outils psychologiques. Si les enfants s'en approprient, ça les amène à un niveau de développement supérieur. Alors là, j'ai parlé que de Vygotsky. Il faudrait peut-être que je redise Anderson et Kratvold. C'est de nouveau une taxonomie. Mais la taxonomie des habiletés cognitives qui va permettre de vérifier qu'on n'est pas uniquement dans des traits de surface, mais aussi dans un apprentissage en profondeur. C'est-à-dire qu'on ne va pas uniquement se souvenir des choses, on ne va pas uniquement les appliquer, on ne va pas uniquement éventuellement comprendre quand on les applique, mais on va pouvoir évaluer comment ça se passe, évaluer la portée de mon geste, de ce que je fais, de ce que je dis, de ce que je nomme. On va pouvoir créer à partir de là, générer des hypothèses, on va pouvoir analyser. Donc ces 6 niveaux, je vous conseille, c'est parce que c'est très 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 utile pour l'enseignement. Je me base beaucoup sur cette taxonomie. Donc ici, il s'agissait d'identifier, mais aussi de faire des hypothèses à quel moment ça va revenir, évaluer, est-ce que c'est le bon moment, etc. Voilà, donc là, dans une perspective vygotskienne, c'est d'amener à un niveau de développement de fonction supérieure. D'engager la perception pour entrer dans une utilisation du signe qui va vraiment créer un outil psychologique supplémentaire. Alors, pour être perçu comme des signes distincts, il est nécessaire d'identifier des contrastes clairs. Ça, c'est plutôt sur le champ psychomoteur qu'on voit ça, hein, sur la perception. Et puis, là, ça va nous permettre de discriminer les objets comme des éléments séparés, bien identifiables. Et dans la perspective vygotskienne, les outils psychologiques comme les symboles, les signes, tous les organisateurs, en fait, doivent être internalisés au travers d'interactions qui permettent aux individus d'activer leurs propres fonctions de perception, de mémorisation et d'attention. Donc ici, ce sera les mouvements de saut et de course qui jouent ce rôle, mais à travers la médiatisation qu'on en fait ensemble, au fond, hein, à travers une forme d'accordage du groupe. Voilà, pardon, je vous montre peut-être un tout petit peu, mais vous ne les voyez pas bien, hein, les images. Voilà, enfin, il y a quand même beaucoup d'interactions à ce moment-là, et c'est dommage que je ne puisse pas vous montrer les images. Donc l'acquisition de ces relations symboliques, elle n'apparaît pas spontanément, elle nécessite le guidage d'un expert dans la perspective vygotskienne. Hein. C'est vraiment l'expert qui accompagne d'abord, qui maîtrise déjà ses outils, et puis le but des apprentissages de ces premiers degrés est aussi d'amener l'élève à l'autorégulation, à se désapproprier les outils. Ça c'est Seb et Pedrine, Seb ayant travaillé beaucoup à vous. Je vous laisse lire. Je pense que la deuxième citation, elle va bien dans ce que tu décrivais de Véronique, hein, aussi. Voilà, alors mes hypothèses, par un dispositif d'enseignement-apprentissage qui allie musique et mouvement, donc de pédagogie de Crozienne ici, mais ça pourrait être autre chose, hein. On retrouve des aptitudes déjà présentes chez le jeune enfant, qui permettent d'envisager un travail sur le temps. Cet objet d'apprentissage doit permettre aux élèves d'accéder à des outils cognitifs qui constituent les fondements de leurs apprentissages futurs. Ce genre de dispositif permettant d'accéder au déjà-là du jeune élève, hein, ce qu'il a déjà, constitue une entrée pertinente pour l'amener à travailler sur son accordage au groupe, sur ses capacités d'inhibition, ce qui contribue aussi à sa première socialisation scolaire. Donc ma question, ça a été de chercher quels sont les phénomènes impliqués dans le travail de construction des repères temporels. Dans ce cas. Mes indicateurs, ça a été d'aller voir du côté des transpositions intermodales. Ce que Stern décrit bien, c'est que ce n'est pas possible d'observer directement l'accordage affectif. Il faut utiliser des moyens, parce qu'on n'en a pas les preuves, au fond. Enfin, comment est-ce qu'on peut trouver les preuves de ça? Donc, on a essayé de trouver les transpositions intermodales chez l'enseignante. Donc, je dis l'enseignante parce que c'est moi. Donc, ce n'est pas juste pour dire que tous les rythmiciens sont des femmes. C'est juste parce que c'est moi. L'enseignante chez les élèves. Les vecteurs dynamiques dans la musique, dans les actions. Et puis, pour vérifier ce que ces vecteurs dynamiques sont réellement perçus, j'ai cherché les mouvements spontanés, donc les rythmes naturels du corps, hein, chez Dalcroze, et leur opposé, l'inhibition motrice, ça veut dire quand on retient le mouvement spontané, ou son défaut, enfin voilà, tout ce qui fait marcher ce frein accélérateur ou pas. Et l'inhibition motrice, je l'ai cherché chez les élèves, mais aussi chez moi. En fait, je vois que j'ai aussi des besoins de m'inhiber, moi, parfois. Et finalement, pour vérifier que le dispositif est bien approprié et efficace, j'ai observé le guidage de l'enseignante en incluant ses régulations inhibitrices. Donc, tout ce qui fait ramener dans la flèche que je vous ai montré tout à l'heure dans le terrain de jeu. Et souvent, dans les régulations inhibitrices, il y a qu'on cherche à préciser les modalités sensorielles à inhiber. Écoute. Ton attention sur les oreilles, regarde, fais ce geste, etc. Donc là, on était dans deux classes ordinaires de l'école publique, avec des enfants de 4 à 6 ans. Voilà. Je vous laisse lire. Variation dans les deux classes, ça veut dire que je n'ai pas abordé exactement la même chose dans les deux classes. Ça, c'est l'avantage aussi d'enseigner la réplique, c'est qu'on a 3 ou 4 classes de suite dans la matinée, et qu'on peut très vite essayer un truc qui marche mieux que je prends les 3. Et puis, j'ai détaillé les différentes parties de cette séquence en établissant un protocole des verbalisations, une description globale des mouvements. J'ai procédé à une micro-analyse de ces moments. J'ai vérifié les progrès dans les performances de 5 élèves, qui étaient surtout choisis parce que je les voyais bien sur toutes les pistes vidéo. Situer la séquence dans le document prescriptif officiel, ce fameux plan d'étude pour moi. Analyser la forme de la pièce musicale dans son profil dynamique, les vecteurs dynamiques, les affects de la tête. Bon, alors, les résultats, c'est que pour cette analyse, j'ai fait déjà, tout d'abord, appel à ma propre sensibilité. C'est ce que je vous ai envoyé, en fait. À mes perceptions, à mes réflexions. Et donc, j'ai aussi pris des notes hein, au moment où j'essayais de le faire. Mais déjà, avant de le dire, au fond, je me suis rendu compte que je faisais toujours une analyse plutôt en termes mélodiques, rythmiques, éventuellement les paroles ou les chansons, ce qui me donnait déjà des indications sur les segments. Ça me permet de situer bien les choses sur l'ordre temporel, puis de ne pas glisser tout à coup en inférant un truc qui n'était pas juste, voilà, en essayant de clarifier tout ça. Mais je ne l'avais jamais fait sous forme dynamique. Voilà ce que ça a donné. On le fera ensemble en suivant ça. Hein. Mais juste pour dire que j'ai les sauts et les courses sont devenus aussi, enfin ils sont devenus sauts et courses, mais parce que dans un premier temps, je les ai sentis comme explosion et commentaire. Enfin, c'est un peu ça le profil dynamique que je verrais. Donc là, on voit S pour saut et C pour course. Les petites croix, ça figure l'apparition des cymbales. Alors juste. Très brièvement, pour dire comment je m'y suis prise et les problèmes que ça m'a posé, c'est que je l'ai écouté beaucoup, beaucoup de fois. J'étais hyper impressionnée de constater à quel point, à chaque fois, j'étais embrouillée. J'étais prise dans ce que j'ai appelé une machine de guerre à exciter les enfants, comme je l'écrivais sur le moment, parce que j'en avais marre. Hein. Je me faisais à chaque fois avoir. Et chaque fois, j'étais prise de vertige, je n'arrivais pas au bout de mon truc. J'étais entraînée dans ce tourbillon. C'était très, très difficile de garder mon calme et ma rationalité pour compter toutes les occurrences. C'est une forme de dictée musicale, hein, en même temps que je me fais au moment où j'essaie de le faire, et pouf, je perdais le... En plus, c'était la canicule. C'est très loin de ce qu'on comprend maintenant, mais c'était difficile de faire ces moments-là. Donc, si on voit la trace visuelle hein, de ce que ça donne, c'est Audacity qui lit la piste que vous avez entendue tout à l'heure, c'est aussi une forme de transposition intermodale, en fait, hein, transposition visuelle. On comprend assez vite que ce qui se passe, quoi, ce que Tchaïkovski a réussi à faire. Alors, je vous propose d'écouter juste la fin, c'est-à-dire à partir de là, et on va voir toutes les techniques que Tchaïkovski a utilisées pour réussir à construire son dispositif d'excitation, on va dire. Parce qu'il y a des aspects de progression arithmétique, de contretemps, d'ajout d'anacrouse, de lever. Hein. Et ça, c'est ça les traits. On les voit d'ailleurs, les progressions arithmétiques. Hein. Saut et 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 de plus en plus vite. Hein. Donc, et puis les cymbales. Donc là, on est sur la course. On respire un peu au fond dans la course. Et là, il y a des cymbales qui font le rythme en même temps. Donc, elles rajoutent chaque fois de l'huile sur le feu. Hein. Et là, elles le font en plus en contre-temps. Donc, ça nous pousse encore plus loin. Ça nous déséquilibre encore plus loin. Et là, elles s'arrêtent plus, ça arrête plus, ça arrête plus, ça arrête plus. Voilà. Donc, affect de vitalité, d'intensité maximum, qui a très très bien marché. Donc, les enfants, ce que j'ai vu, hein, de comment ils le réalisaient, comment ils le percevaient, je peux imaginer, par transposition intermodale, que les grands sauts qu'ils ont faits, les sauts très hauts, des mouvements très larges, une course rapide, beaucoup de cris, des cris de plaisir, des cris d'excitation, c'est d'ailleurs sans doute ce qui m'a posé problème la première fois. Donc la course est arrivée très spontanément, et ça a correspondu, je pense, au vecteur dynamique utilisé par Tchaïkovski, beaucoup plus spontanément la course que le saut, au fond. Hein. Moi, j'ai proposé le saut, mais la course, c'était ce qui venait en premier. Après, pour arriver à faire les sauts, il fallait qu'ils s'inhibent, il fallait qu'ils arrêtent la course pour pouvoir redémarrer un saut. À partir du moment où ils ont pu le faire, ça a marché. Il y a eu aussi des vocalisations spontanées sur le plan des transpositions intermodales. Pour exprimer ces mouvements de forte intensité, il y avait des enfants qui chantonnaient, qui faisaient des... des choses comme ça. Et c'est moi qui ai fait aussi. Au moment où je voulais montrer le ruban, j'étais là, wouh, fort, assez accentué, haut. Donc là, il y a vraiment l'idée du tonus qui est le même dans la voix ou qui est le même dans la course ou dans le mouvement. Donc il y a vraiment des transpositions. Et donc, on a vu que ça pose un problème d'inhibition motrice, hein, ce côté d'intensité énorme. Ah oui, pardon, la petite... Je ne sais pas si vous voyez, là, cet enfant, là, il décolle chaque fois. Il fait son fouet, là, son saut avec le ruban, et à chaque fois, il décolle, ça. Ça veut dire que le mouvement qu'il fait, ça lui pose ce problème de régulation tonique, c'est pas seulement le bras, c'est tout le corps en entier qui réagit, qui explose, quoi. Après, je n'ai pas besoin de m'étonner, c'est compliqué. Là, il y en a un qui part en arrière, parce qu'il le faisait assis, mais il fut quand même à la fin. Voilà. Ce que je laisse venir assez... quand ça reste dans les limites de ce qu'on peut comprendre en soi. Et puis, parfois, c'est moi aussi qui ai pris en charge, comme je l'ai dit tout à l'heure, les régulations inhibitrices, qui dit stop, reste au même endroit. Là, je ne sais pas si vous voyez le geste que je fais, vraiment un geste de stop. Stop ici, ou bien on attend le début, mettez-vous dans cette position, enfin, pour essayer de mettre du calme et de la clarté dans le jeu, pour pouvoir entendre après ce qu'il y a à entendre. Donc on va réguler l'espace. Voilà. C'est aussi en régulant l'espace qu'on arrive à trouver ce moyen non locomoteur. C'est-à-dire qu'on reste au même endroit. On ne va pas encore en plus rajouter du kinesthésie globale. Ça va faire trop. Et donc, l'objet d'apprentissage que j'avais, qui suppose les outils de repérage dans le temps, dont l'appropriation semble aider les élèves à mobiliser leur attention et leur capacité d'inhibition, ça j'ai vraiment pu le vérifier dans les performances des élèves. Elles sont vraiment très nettement meilleures. Alors, j'ai pas des petits... statistiques à vous montrer, parce que dans mon parcours académique, j'ai pas eu le temps de faire des statistiques. Voilà. Mais j'ai des grilles que je peux vous montrer si vous voulez. Voilà. Ces outils cognitifs, quels sont-ils? Qu'est-ce qui fait signe là? Et c'est là que je pense qu'on peut insister sur un autre hiatus au fond qu'on a souvent quand on enseigne dans ces tout petits degrés. Ça n'est pas le verbal qui fait signe, pas toujours. Sinon, on arrive à une école logocentrée, comme tu disais, Laurent. Les signes, c'est les mouvements, ça veut dire je reconnais le mouvement. Et si je peux différencier deux mouvements, alors là, ça commence à devenir un outil à disposition. Hein, parce qu'il y a le mouvement, sauter, courir. Il y a le mouvement, les mots, qui vont dessus, saute, court. Ça va, c'est bien compris. Les gestes avec les bras, avec les mains assis ou avec les rubans. Donc ça, c'est des signes. Hein. Si je fais ça, c'est compris. Si je fais ça, c'est compris. On peut commencer à construire le temps, à construire quelque chose avec ça. Il y a le comptage, 1, 2, ça tourne, 2, et ça tourne. À partir du moment où j'ai amené les élèves à peut-être compter, je ne le fais pas tout de suite du tout, hein, parce que sinon justement on en arrive à des compétences numériques uniquement, mais quelques-uns, on a commencé à dire mais combien de fois on saute au début, on a construit ça ensemble, et du coup ça les aidait beaucoup, 1, 2, ça tourne. Les onomatopées, et là j'ai mis le whoop, mais il y en avait certainement des tas d'autres. Et puis le son, j'ai rajouté ça encore ces jours, parce que le claquement de fouet, ça fait signe. C'est vraiment un phénomène auditif et kinesthésique en même temps, qui fait signe, qui permet de se repérer, et où il y a vraiment l'ajout des modalités sensorielles qui permet d'être vraiment clairement dans une vraie expérience sensorielle très forte qui fait signe pour les enfants de cet âge et qui leur permet du coup de se repérer dans le temps. Donc vous voyez un peu le montage et l'importance déterminante de la médiation humaine au début, déjà pour arriver à l'accordage, mais après pour arriver aussi à des signes dont on a besoin pour vivre ensemble, pour construire des choses plus complexe pour arriver à l'abstraction, etc. Et le temps est déterminant là au milieu. Donc, ces différentes formes de langage qui sont aussi là chez l'enseignant, c'est pas que les parents qui font ça, hein. Donc les enseignants, on a vu Véronique, moi je le fais aussi, enfin tous les enseignants, en tout cas dans ces petits degrés. Donc, il y a le langage de l'empathie, affectif, tonique, l'empathie, c'est aussi tonique, dynamique, transmodal, et celui plus objectif, hein, les langages qui mènent l'enfant vers sa dimension d'élève, l'élève qui doit apprendre à s'autoréguler, ou l'élève de l'école François, dont tu parlais, hein, l'école où c'est pas toujours rigolo, des fois on doit attendre, des fois on doit apprendre des techniques, donc les outils c'est aussi ce qui va nous permettre de mettre à profit une technique qu'on va apprendre, les outils cognitifs notamment. Donc ces affects de vitalité, ces vecteurs dynamiques, ça fait vraisemblablement partie du vocabulaire usuel des enseignants de rythmique, hein, que je représente ici au fond, parce que quand je vois mes collègues, je pense qu'on est là-dessus, mais sans le savoir, hein, on ne connaît pas forcément encore tous ces mots. Et puis le passage régulier à ces transpositions intermodales, je pense que c'est vraiment ce vocabulaire d'Alcrozien. Tout à coup, on commence à mettre des mots dessus. Et donc, moi, je vais vous laisser lire. Donc le fait d'agir sur l'incitation, l'inhibition, les freins et les accélérateurs, c'est vraiment quelque chose de central. Moi, cette expérience m'a incité à me dire, je vais plus souvent être vraiment formelle dans mes analyses dynamiques. Ça veut dire comment j'analyse le matériau dynamique qu'il y a à l'intérieur d'une pièce, quitte à n'en prendre qu'un tout petit bout, parce que c'est vraiment ça qui va faire signe. Voilà. Donc, en fait, on est dans une histoire du spontané au structuré. Que ce soit chez Vygotsky ou chez Dalcroze, on est vraiment dans une histoire assez proche. D'ailleurs, j'ai une collègue, je vous dis son nom quand même, parce que ça vaut la peine, elle est au Québec, elle s'appelle José Vaillancourt, et elle travaille vraiment sur ces objets-là, le rapprochement de ces objets vygotskiens et dalcroziens. Voilà. Donc, à partir de ces aptitudes innées du langage propre à cet âge, on permet aux élèves de mobiliser utilement leur dimension attentionnelle, déjà ça. Et ça, peut-être bien que ce serait une piste à chercher en formation. J'ai beaucoup aimé le début de ta présentation, François, qui disait, elle le fait, ben, quand elle fait ses sons, alors elle le fait avec son vocabulaire musical d'enseignante, et on doit l'accepter. Hein. Ces enseignants-là, qui sont dans toutes ces classes de France et de Navarre, je veux dire, et de La Réunion, voilà, il y en a qui sont très musiciens, il y en a qui ne le sont pas, et c'est pas leur job d'être a priori très très bon en musique. Par contre, ils sont là avec leur cœur, avec leur capacité d'accordage. Et je pense qu'on pourrait, alors je parle pour la HEPVO aussi, hein, on pourrait peut-être beaucoup améliorer la terreur qu'ont les étudiants face à la musique en leur disant « Mais vous savez déjà faire ça, on sait tous faire ça ». Et on pourrait carrément laisser un petit peu la musique écrite un moment de côté pour juste faire des jeux d'accordage. Je m'arrête juste pour vous dire qu'avec une collègue de la HEPBJ, une collègue de François, on a fait des moyens d'enseignement. Voilà, 4 journées là, si vous voulez les voir. Et puis tout ça, c'est mes sources. Et voilà, place à la discussion.
Je voudrais dire qu'en vous écoutant, je me rends compte que Dalcroze a probablement lu Henri Vallon. Parce que tout ce que vous dites, en fait, ça remonte à Vallon. Et tout ce qu'il développe sur la fonction posturale dans un ouvrage de l'acte à la pensée, où il montre bien les fondements psychomoteurs de la pensée. Et je pense que dans les années 30, Vallon a écrit son bouquin de l'acte à la pensée dans les années 30, et je pense qu'il a dû le lire, enfin. Et autre petite remarque, certes, Imberti a développé la notion de chaîne tension-détente, mais enfin, la paternité revient à Robert Frances. Hein, c'est oui, lui, dans d'accord. Son bouquin sur la perception de la musique, qui a développé justement les chaînes de tension détente.
Le bouquin dans lequel j'ai trouvé l'article d'Imberti. Voilà.
D'accord.
Voilà. Mais merci, hein, parce que effectivement, je. Oui, c'était bien sous le chapeau de Frances que j'ai trouvé ce texte. Ouais. Ok.
Et Vallon montre bien comment justement dans ces dans ce passage, il dans toute la genèse de la personne, il développe ce qu'il appelle le stade projectif, où justement l'enfant ne peut penser qu'en acte. Et petit à petit, justement, la pensée s'inscrit comme signe. Mais je pense que, aussi bien d'ailleurs, Stern qu'Imberti ont travaillé Vallon.
Oui. Oui, oui. Moi, je l'ai lu un peu. Dalcroze, je ne suis pas sûre que ce n'était pas un grand lecteur. C'est un peu le problème qu'on a dans la musique aussi.
Ouais, ouais.
Ou en tout cas, particulièrement dans le courant dalcrozien, c'est qu'il y a eu de la pratique et très peu d'académie. Puis parallèlement, il y a eu l'académie avec peu de pratique. Et au fond, il faut qu'on fasse un peu une réunion des continents.
Il y a un autre auteur aussi que vous auriez pu citer, c'est Colwyn Trevorton.
Ouais,
dans
ça, je vais trouver.
La musicalité, la communication, je pense que là aussi,
oui.
C'est une source importante. Hein.
C'est vrai que je n'ai peut-être pas fait les recherches de paternité. Pousser. Merci.
Il y a un moment donné, vous abordez différents outils cognitifs.
Donc, oui.
Ce sont des outils qu'utilise l'enseignant finalement pour réguler, pour inciter.
Ça. Ça, c'est ce que j'ai trouvé dans mes images, avec mes indicateurs en disant qu'est-ce qui fait signe. Pour moi, c'est une question vraiment assez fondamentale maintenant. Qu'est-ce qui fait signe auprès des enfants ? Des fois, c'est, je crois que quelque chose va faire signe, mais c'est pas ça.
Saut de cours, par exemple, c'est l'enseignant qui le dit.
Oui. Ça, c'est moi qui le dis. Ça veut dire que c'est vraiment cette idée de l'expert
qui sait
le dire au bon moment. Après, les enfants, ils peuvent le dire.
La question est de... finalement, on voit bien que l'enseignant dit le savoir. Ici, il y a une sorte d'effet topaze.
Non, c'est pas l'effet topaze, c'est Vygotsky. C'est vraiment l'idée de Vygotsky. C'est vraiment pour entrer dans la zone de développement de l'enfant, dans le développement proximal, et il y a l'idée que l'enfant, il ne sait pas tout seul. D'ailleurs, quand on voit les parents et les enfants, je veux dire, il y a énormément de choses qui sont proposées. Et progressivement,
D'accord. Parce que là, finalement, quand il dit saute à ce moment-là, court à ce moment-là, il dit le savoir. Enfin là, l'enfant
ne
construit pas le savoir de son propre mouvement. Donc ma question, c'est en termes d'aménagement du milieu, en termes de degré d'étayage, est-ce qu'il n'y a pas des différents niveaux possibles ?
Bien sûr qu'il y a différents niveaux possibles.
Et du coup, ça passe sûrement par les autres outils que vous décrivez.
Ben, si tu veux, mon constat, je reprends les termes bigotiens parce que c'est pratique pour moi, si ça va, hein, mais étayage, désétayage, on est d'accord. Mon constat, c'est que sans étayage au début, la toute première fois, les sauts, ils n'arrivaient pas à les faire. Ils n'avaient pas les moyens de les faire, ils n'avaient pas les moyens de les entendre, même de les percevoir. Parce que c'était, vouf, l'explosion de course. Donc, on les assied, et puis là, il y a la proposition. La première proposition, c'était seulement les sauts. La course, elle est venue après chez moi. Et puis après, je me suis rendu compte qu'il y avait à mettre du sens sur les autres moments. Mais les sauts, ils les ont trouvés. Donc, à partir du moment où ils peuvent faire un peu avec moi, mais aussi tout seul. Enfin, c'est ça au fond. L'étayage, désétayage, comment je dirais. Je le fais en faisant par moments où je m'inhibe moi-même. Autrement, je ne le fais pas. C'est difficile parce que la musique est très prenante. Donc, je ne le fais pas pour vérifier où ils en sont. Et puis là, en plus, c'est un groupe. Alors, il y en a qui ont assez vite compris. Et puis, il y en a d'autres qui sont sur autre chose. Mais au fond, oui, c'est vrai. Je leur montre un modèle. Je leur donne un outil. De la même façon qu'à Tiapachin, qu'à Tiapachin, il y en a des deux de monde. Tu vois, je veux dire, si on commence à parler juste sans mots, ça va être difficile. Il faut qu'à un moment donné, on comprenne quand même la signification du mot, sur quoi ça s'accorde, et bien sûr qu'après, il y a toutes les négociations pour comprendre que ce mot, il n'a pas toujours la même signification pour tout le monde. Donc oui, j'assume que je leur ai donné des outils pour poser quelque chose sur leur perception. Pour se repérer. Voilà. Donc ça fait partie de mon objectif d'apprentissage. C'est pas un objectif d'expression libre. Ce serait autre chose. Si je reprends la... Et ça, je pense que c'est une chose que j'ai vraiment apprise, que je trouve passionnante à reprendre dans l'analyse, que j'ai apprise de mes collègues didacticiens. Ce que reste flèche, voilà. C'est que sommet là-haut, c'est déterminant. Et on peut avoir des choses qui paraissent n'avoir pas de sens si on n'a pas compris ça. Mais pour les élèves, c'est hyper important, évidemment. Donc en tant qu'enseignant, on a vraiment une responsabilité fondamentale à être hyper au clair et hyper rigoureux sur si je veux faire de l'expression libre. Et ça, c'est peut-être ce qu'on pourrait reprocher à Véronique. C'était pas oser dire à un moment donné, c'était acquérir des outils. Acquérir des outils, ok. Ils ont acquis les outils avec la bête, petite boîte, que c'est toujours la même. Mais c'est pas oser s'exprimer. Est-ce que je réponds à la question?
Oui, ce que je pointais aussi du doigt, c'est que il y a une forme d'imposition, une forme d'expression. Quand on dit saute ou court, on n'a plus le choix de faire d'autres choses et de le faire à ce moment-là. Et finalement, quelle est...
Oui, il y a une inhibition.
À quel moment elle arrive à peu près par rapport au nombre d'écoutes, par exemple, de l'œuvre?
Alors, moi j'ai 45 minutes avec eux, donc je m'arrange pour... Alors, la toute première fois, ils ont couru. Après, on s'est assez vite mis assis, et puis j'ai proposé, est-ce que vous entendez des sauts, est-ce que vous pourriez me les montrer?
Donc il y a déjà le mot saut.
Oui, j'ai tout de suite donné le mot saut, ouais, c'était vraiment un travail sur... Ce que vous ne voyez peut-être pas, c'est qu'il y a d'autres moments où je travaille sur...
Les
objets et les enfants se sentent à l'aise pour faire des choses tout à fait non nommées, mais c'est pas l'objet ici.
Est-ce qu'en fait on se demande s'il faudrait pas faire, si on peut questionner le changement en fait, plutôt que le faire en disant la consigne, ce serait faire quelque chose quand il y a changer de mouvement, quand il y a quelque chose qui change.
Mais je pense que la toute première fois je l'ai fait.
D'accord.
Mais c'était absolument inopérant. C'est absolument inopérant avec vos enfants de 4 à 6 ans qui n'arrivent pas à s'arrêter.
Est-ce que c'est pas lié au nombre d'écoutes et à la culturation, à l'œuvre?
Peut-être. Alors ça, peut-être que si on pourrait faire l'expérience, ce serait hyper intéressant, parce que moi je l'ai entendu beaucoup. Si l'enseignante pouvait, hors des moments où je les vois, ça, ce serait peut-être un truc à essayer, leur faire écouter ça de manière implicite, comme ça, pendant qu'ils font d'autres choses, ou je sais pas quoi. Alors là, ce serait intéressant de voir ce qui vient. Mais c'est vrai que jusqu'à maintenant, j'ai pas réfléchi à des dispositifs qui impliquent ça. C'est une bonne idée. Ouais.
Oui, c'est sur la longueur de l'extrait.
Oui.
Parce que c'est long à mémoriser pour une écoute active, pour les petits.
C'est pour ça que les moments de course, alors s'ils faisaient autre chose que de la course, c'est complètement égal. Hein. Moi je dis c'est un commentaire. Il y en a qui ont dansé, il y en a qui ont. Ouais, vraiment, non, alors ça, c'est vraiment pas militaire dans le sens où s'ils font autre chose. Et puis les sauts, il y a mille manières de sauter. Alors ça, alors il y en a beaucoup et c'est dommage qu'ils ne puissent pas beaucoup les images. Ils sautent comme ils veulent, c'est vraiment un affect de vitalité. C'est une accentuation.
Parce que.
Ouais, tout dépend du type de mémorisation, parce que si, à partir du moment où on commence à sauter, je pense que la mémorisation elle se fait autrement. Il y a une incorporation temporelle. Je pense que peut-être, du coup, les limites que l'on imagine, des limites un peu intellectuelles, ce ne sont pas les mêmes puisqu'on est dans l'action. C'est vraiment une hypothèse.
En fait, dans mon esprit, c'est de mémoriser le geste. C'est à quel moment est-ce que je plie les genoux pour pouvoir sauter au bon.
Là, il faut une anticipation, en fait. Il faut une... Oui, c'est pour ça qu'à la fin, le moment le plus, le plus valorisant, gratifiant pour eux, je crois, c'est vraiment le moment avec les rubans. Ça, c'est un moment où c'est très facile à faire pour eux, et alors là, il y a mille manières de faire d'autres choses en même temps. Au fond, que moi, je ne vais pas leur dire que ce n'est pas juste. Ça, hein. C'est mon objectif, c'est qu'ils acquièrent des outils. Si à un moment donné, ils ne veulent pas les utiliser, c'est pas grave. Pour moi, l'important, c'est que je vois qu'ils commencent à les comprendre. Et alors là, ben, le saut, effectivement, d'abord, ils aimaient beaucoup, ça fait du bruit, hein, comme je l'ai dit, le fouet. Ils sont sur place. Alors ça, c'est vraiment le truc où je suis assez pougnette, parce que, excusez-moi, je suis assez inhibante. Parce qu'il y a aussi le danger, les rubans, il y a un bâton. Donc s'ils vont trop près des autres, ils peuvent se faire mal. Mais autrement, dans ce petit endroit-là, ils peuvent sauter. Et puis après, le commentaire, je cours, c'était des trucs comme ça. Mais ça pouvait être en terre, ça pouvait être en haut, ça pouvait être à un autre tempo. Et il y en a qui, à la fin, ça j'ai trouvé hyper intéressant, ont commencé à sauter à d'autres moments. C'est-à-dire à sauter à un autre rythme aussi. Et donc là, pour moi, c'est gagné. Parce que ça veut dire qu'il commence à se repérer et il commence à identifier plus de choses qu'au début.
Est-ce que ça ne vaudrait pas le coup de chercher à expliciter très très finement, précisément, finalement, l'objet d'apprentissage que poursuit l'enseignant ?
Aux élèves, hein.
De repérage dans le temps. Parce que finalement, il y a un postulat sous-jacent.
Mais vous postulez que je ne l'ai pas fait, c'est pas vrai, je l'ai fait.
Oui.
Je le fais. Maintenant, je le fais. Eh bien, c'est très différent quand on le fait. Parce que les élèves, mais une fois, je l'ai fait par rapport à la lecture. Puis, en essayant de leur. Non, mais tu ne l'as pas entendu parce qu'il n'y a pas les films. Mais je ne l'ai pas vu, c'est vrai, je ne l'ai pas mentionné. De plus en plus, je le fais et les enfants lèvent l'œil parce que je leur dis. Ça va t'apprendre à te repérer, à savoir quand, quoi.
Oui, mais quel est ce repérage qui est poursuivi par l'enseignant ? Le repérage, c'est l'accent. Mais ça aurait pu être un autre moment musical que cet accent qui aiderait les élèves à se repérer dans le temps de.
D'accord. Ça aurait pu être un moment. Oui, d'accord, je comprends.
Toi, tu postules.
Moi, je postule que c'est celui-là qui ressort le plus fort.
Mais pourquoi ce serait celui-là ?
Oui, parce que c'est le mien.
Parce
ça aurait ta raison.
Ça induit le saut. Oui. Donc. La construction d'une forme d'anticipation motrice de la part de l'élève, au moment de ses sauts, ben, je veux dire. Le... Oui.
Ben, ça, c'est ce qu'on pourrait faire à partir d'une écoute longue. Je pense que là, on pourrait commencer à voir comment les élèves se repèrent.
Alors, je ne dis pas que c'est faux, hein, mais est-ce que. Est-ce
non, non, tout à fait. Mais je pense que je suis un peu contrainte par mon format aussi. Hein,
enfin, bien sûr, mais bon, à l'école, je cherche toujours à optimiser les apprentissages, donc forcément, tout au contraire, à un moment donné, mais ça vaut peut-être d'analyser.
Oui. Et ensuite de voir après, quels sont les points. Moi, la prochaine fois, je vais
Le fichier d'hypothèse et voir comment la démontrer finalement. Vous l'avez confirmé ou l'affirmé.
D'accord.
Oui, pour revenir sur ce que disait Odile, en fait, l'objet d'apprentissage est clairement énoncé, mais c'est chez l'élève le révélateur. Enfin, quelle est sa possibilité de montrer qu'il est justement dans cette maîtrise du temps.
Okay.
Et est-ce que c'est le geste en lui-même ou est-ce que c'est la capacité de l'enfant par l'écoute, etc., multipliée, qui lui permet d'anticiper le geste et d'être dans une vraie construction du temps et de la manifester. Mmh. C'est-à-dire, soit c'est un réflexe, soit c'est une anticipation, je prépare manger, je suis là-dessus, et paf, je sais que ça va arriver. Et notamment, par exemple, le coup final, c'est comment est-ce qu'on amène les élèves à avoir suffisamment de repères pour être avec le coup final et dire, ah bah oui, ça y est, j'ai compris comment.
Et celui-là, on l'a réécouté beaucoup, avec attention, enfin, vous avez entendu, hein, j'ai l'habitude de le dire. C'est une forme de narrativité aussi, je crois. C'est quand tu dis. C'est difficile à se souvenir. C'est vrai qu'au fil des leçons, ils se construisent une histoire avec ça qui est certainement pas la mienne, et tant mieux. Hein.
Parce que la question du repérage dans le temps, par rapport à des enfants de 4-6 ans, c'est ce qu'on travaille, par exemple, avec des albums de littérature jeunesse, avec des événements qui arrivent à...
C'est toujours ce que sortent les enseignants. C'était exactement ce sur quoi portait mon mémoire. Ils n'ont jamais l'idée, les enseignants, de le coller à la musique, mais ils le collent à l'histoire. D'où la petite représentation.
C'est plus fin que Pierre et le Loup, c'est-à-dire que là, c'est vraiment la construction du temps, vraiment. Oui. C'est-à-dire qu'on est bien sur le temps, on n'est pas sur.
On est bien sur le temps. Ah ben, les conclusions de mon mémoire, c'était, après avoir observé ça chez les enseignants en formation, c'est de dire, est-ce qu'on ne devrait pas séparer les deux choses en disant, on devrait travailler par moment le temps, vraiment, avec les moyens des enseignants, mais aussi en remettant certaines choses en place, parce que c'est tout à fait bizarre, et puis travailler sur l'accordage, et c'est autre chose, et ce serait un autre geste.
Si j'essaye de comprendre et de synthétiser un peu ton approche, donc l'idée au départ c'est d'avoir une œuvre qui est cette œuvre de Tchaïkovski, et puis ensuite de traduire cette œuvre par des marqueurs dans ta première analyse. Hein, c'est ce qu'on appelle ce qu'on fait souvent dans l'analyse systématique des comportements, mais ici ce serait l'analyse systématique des comportements que provoque l'œuvre, hein, donc c'est-à-dire. Ça saute, ça fait comme ça, il y a une attente, etc. Une fois que ces marqueurs sont identifiés, on va présenter cette aux élèves et on va incorporer ces marqueurs en tant qu'enseignant pour essayer de donner des repérages, des facilitateurs qui permettront à l'enfant de créer progressivement des anticipations.
C'est un peu ça. C'est un peu ça. Et avec toute la frustration que ça pose, avec l'idée du modèle, hein, du maître qui fait le marqueur.
Et dans le fond, d'aider l'enfant à activer, par imitation, des sortes de prototypes qui lui permettront ensuite de s'incorporer progressivement et de développer une attente perceptive et en fin de compte de recréer l'œuvre, de recréer une représentation mentale, on pourrait dire, c'est-à-dire de la vivre sans l'expression motrice parce qu'elle est activée mentalement.
Voire de s'en affranchir, puisque si on va dans l'idée des habiletés cognitives, c'est aussi pouvoir créer des nouvelles formes avec ce vocabulaire. Parce que les mots que j'ai appris d'une manière, je vais pouvoir les agencer différemment après.
C'est une première approche, et puis c'est l'approche d'Alcrozienne. Une autre manière, d'aborder ce même dispositif, serait de partir de l'élève. C'est-à-dire, de partir du... C'est une proposition que je fais, et puis je la soumets après à votre approbation. Ce serait de partir d'une écoute libre et de demander à l'enfant comment ça fait. Ça commence à vibrer, d'accord ? Et l'enfant, et c'est ce qu'on appelle l'enfant des synchronisations d'induction motrice qui sont présentes très primitives, une année et demie chez l'enfant, c'est presque qui démontre ça. L'enfant, tout enfant, peut dire que ça fait tête. D'ailleurs, si on les voit en pleine écoute et on voit les enfants sur leur petite chaise, ils commencent à faire comme ça, etc. Et dans le fond, l'idée serait de se mettre, d'accord, dans un enseignement, je dirais, socio-constructiviste, de partager ces éprouvées dynamiques, de repérer quels sont les plus signifiants pour l'ensemble de la classe, donc c'est-à-dire de se mettre d'accord dans le fond sur quel geste on pourrait faire à quel moment. Et ensuite, sur des moments courts, parce que le vrai nom, dans le fond, de les mettre progressivement en cohorte, de les incorporer et de créer une chorégraphie collective. Sur ce passage-là,
on aurait pas forcément du saut.
Oui, ça peut être autre chose, mais un mouvement qu'on pourrait, dans le fond, discuter et formaliser par tous. Et dans ce cas, on serait dans une approche inactive
Ce qu'on fait aussi, hein, parfois, on a le cours.
Ce qui me paraît intéressant, c'est que finalement, au travers de cette renversement de posture, c'est qu'on a quand même d'autres paramètres. Moi, je suis plutôt un épicien, et pour là, on peut parler épicien au sens de la troisième. Mais là, pour le coup, j'entends d'autres paramètres, plein d'autres paramètres que les paramètres dynamiques. Donc l'analyse dynamique propose, ok, évidemment, mais il se passe énormément de choses en termes de contour mélodique. Mm-hmm. Tout au plan harmonique,
tout à fait.
Et rien ne dit à ce stade qu'un certain nombre d'élèves ne se repèrent pas plutôt sur ces paramètres-là pour arriver à se structurer dans le temps. Donc ça revient à ce qu'on dit tout à l'heure.
Alors,
et probablement une combinaison. Mais on est
dans la difficulté que je vois.
Effectivement, les mouvements dynamiques là sont tellement paraissent évidents, mais c'est pas parce qu'ils paraissent évidents que pour autant. Ce sont ceux-là qui sont
complètement d'accord.
Effectivement, donc renverser cette posture.
Je suis complètement d'accord.
Permettre de faire émerger cette
alors peut-être que c'est mes limites à moi aussi, mais pour arriver à faire émerger ce moment où chaque enfant va être dans sa propre perception sans être pris dans le groupe, parce que les neurones miroirs, c'est ça aussi, c'est tous les autres élèves. Et quand, la toute première fois, ils ont commencé à courir, c'est parce qu'il y en a un ou deux qui ont eu la bonne idée de courir, les autres étaient en train de faire autre chose. Et ils se sont fait embarquer par cette espèce de tourbillon collectif. Et ça, c'est un problème pour moi, je pense, à résoudre sur l'apprentissage de la musique, l'enseignement de la musique. Et comment on fait ?
C'est pas tout à fait ça, dans le fond. La limitation. Et puis, ce qu'on appelle la synchronisation et la syntonisation. Donc, il y a un effet de contagion. Un enfant commence à courir et puis tout le monde va courir.
Okay.
Mais ça, c'est normal. J'entends cette
bien sûr que c'est normal.
C'est une imitation. On fait avec, c'est une sorte de contagion. Mm-hmm. Mais la synchronisation, elle implique, dans le fond, une forme partagée par tous dans laquelle on va agir tous ensemble.
D'accord, mais pour y arriver.
Eh bien, c'est par exemple l'approche que je proposais au départ, c'est-à-dire de se mettre d'accord sur des formes ou des prototypes que les enfants ont fait émerger eux-mêmes et qu'ils pourront reproduire tous ensemble et qu'ils pourront, dans le fond, réverbération, tous vivre, mais d'une manière qui n'est pas uniforme, mais qui est à peu près semblable.
Mais ça repose la question des objets de savoir.
Oui.
Des objets d'apprentissage, pardon, ça, que l'on poursuit. Parce que si effectivement on cherche un objet de discrimination positive, par exemple sur un jeu, hier j'avais encore le cas avec un étudiant qui proposait j'ai deux cartes et en fonction de ce que j'entends, je lève une carte ou l'autre. Et je lui dis, et en fait, les yeux ouverts ou fermés? Oui, mais qu'est-ce qui se passe au bout d'un moment? Les enfants, hop, ils se repèrent, moi je sais pas, et dès que j'en vois qu'ils lèvent, hop, je fais pareil. Je dis, dès que vous fermez les yeux, la discrimination elle devient individuelle. Donc on voit bien tout de suite que l'exercice n'est plus du tout le même, on ne vise pas du tout.
C'est des moments que je réussis à faire dans les moments de retour au calme où ils sont couchés, par exemple. Ils sont séparés.
Oui, dans la vidéo, on voit bien que dans un premier temps, on se questionne parce qu'on se dit, il y a le visuel et l'auditif, donc on ne sait pas trop sur quoi les enfants sont basés, mais après, dans le deuxième exercice, ils ne voient plus la source. Donc effectivement, on a avancé d'un cran et on a même déplacé potentiellement l'objet.
Je voulais rebondir en profitant du fait qu'Alberti a travaillé effectivement dans la prime enfance et aussi dans ce qu'il appelait la sémantique psychologique de la musique. Des fois, je suis un peu gêné de voir comment on généralise des choses qui relèvent de la prime enfance, qui sont l'accordage affectif, peut-être les trames temporelles des bruits, à des questions qui sont très passées par le langage. Donc, Alberti, quand même, pointait les chaînes de tension des tempes cinétiques et posturales, et d'un autre côté, et comme un au-delà, et comme quelque chose de plus important dans la sémantique musicale, ce qu'il appelait les chaînes de résonance émotionnelle, qui était lié à la façon dont on arrive à extraire un degré de prévisibilité ou d'imprévisibilité de la structure musicale. Alors pour revenir à la question de la définition de l'objet, c'est qu'effectivement c'est vers ça qu'on tend, c'est-à-dire une possibilité de résumer par une analyse grammaticale globale. Française parlait du point de condensation, c'est du moment où la totalité de l'œuvre apparaît et s'organise dans un devenir. On sait que on a eu la réposition du premier thème et on va aller jusqu'à la fin. Et je voulais faire le lien justement entre les choses de prime enfance et les choses plus langagisées. C'est qu'au tout début, le patrimoine des chansons enfantines est extrêmement redondant. C'est-à-dire qu'il y a plein d'indices qui finalement vont être saisis par quelque chose qui va donner lieu au schéma tonal. Il y a un pattern de décélération métrique, il y a une formule cadentielle archétypique, il y a une métrique où il y a une volonté des monnayages, parce que la dimension monnayage, là-dedans, est très forte. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 1. Cette chose-là, peut-être qu'il se raccroche à cette structure-là, mais que derrière, il n'y a pas un élément tonal si simple et si facile, qui constituera un objet de savoir comme quelque chose qui est une façon, un type de signe, un type de langage, un type de structure, qui finalement n'est pas visible d'une part, mais qui grâce à tout ce patrimoine de chansons prototypales très redondantes, finit par être saisi comme un bon moyen de résumer ce qu'on entend. Et peut-être que une des erreurs ou un des risques serait d'en rester à la surface, comme disait tout à l'heure Gérald, la régulation purement visuelle, où le prof ne se rend pas compte que l'objet d'apprentissage est ailleurs, il n'est pas dans la régulation musicale. Mais là, des fois, effectivement, pourquoi est-ce qu'il faudrait sauter? Il y a des musiques qui amènent un saut peut-être plus syntactiquement important par des dimensions tonales. Par exemple, quand on rentre dans l'italien, le saut, il est dans l'intonation, dans le geste, mais il est aussi dans une utilisation redondante, doublée par l'organisation harmonique. Et c'est vrai que ça serait intéressant de voir comment les objets, la façon dont on choisit les objets, ne sont pas liés simplement au fait que ça marche très bien, au fait que soi-même on a une autosuggestion qui est souvent fondée de l'efficacité avec les enfants, de la machine effectivement à les faire s'agiter, mais de voir comment là-dedans il y a un extrait qui reprend du point de vue moteur, pattern accélération, décélération, micro-temporalité, retard, du point de vue langagier, cellule conclusive ou suspensive, mais répétition une fois, deux fois, trois fois, du point de vue des accents métriques, rythmiques avec ces affaires de monnayage, du point de vue peut-être du timbre aussi avec une attaque plus rugueuse ou un transitoire d'attaque plus forte, mais arriver à décomposer l'objet qu'on va récupérer pour savoir, tiens, pile poil, c'est par là qu'on va organiser notre savoir, c'est-à-dire c'est par une appréhension d'un résumé structurel ou de... Voilà. Excusez-moi, j'ai été très long. Puis en plus, c'est vrai qu'il faut...
laisser la place.
Voilà, François.
Non, on va laisser la place. Mais je voulais simplement dire que toutes ces formes-là sont présentes dans la rhétorique.
Mais oui,
et donc on pourrait aussi très bien passer par des éprouvés prototypiques de certaines formes de rhétorique que l'enfant exercera à vie et ensuite à identifier dans le...
Et c'est ça qui est la clé, c'est la parole qui sert le transfert.
C'est ça.
Parce qu'on a un mot qui désigne quelque chose qui est dynamique, qui est efficient, qui est une poignée sur le langage, mais une poignée théorique sur le langage. Montre quelque chose.
Compte le texte aussi.